RCF. Bonsoir, c'est le 18-19 en ce jeudi 28 décembre, un 18-19 à la fois local et diocésain. À noter dans notre agenda que demain, nous retrouverons à la fois Mgr Étienne Véteux, mais aussi Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui nous présentera ses vœux pour 2024. Au sommaire de notre édition, on retrouvera Gérard-Marie Henry ce soir. On parlera d'un maire, puisque les maires se succèdent sur l'antenne de RCF Reims-Ardennes. Et ce soir, le maire qui nous parle sera tout à l'heure Christophe Mahuet. Il est maire d'Auménancourt. Et puis Claude Ruiz nous entraînera encore vers les villes, vers Noël, dans l'histoire. Et puis nous reviendrons avec Marie Paillard sur un cycle de conférences proposé par Alliance Vita. Ce sera début janvier. On y reviendra ce soir. Bref, un beau programme dans quelques instants. Tout de suite, le rendez-vous chronique du jeudi avec Gérard-Marie Henry, question d'économie. Il va s'agir aujourd'hui d'inflation.
La question d'éco avec Gérard-Marie Henry, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et on parle inflation cette semaine, un sujet inspiré d'une de vos autres activités puisque vous intervenez dans différents médias, par exemple le Journal L'Union, mais vous faites également la Minute Éco. Vous pouvez nous rappeler ce concept en quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet peut-être, Gérard-Marie Henry?
Oui, Minute Éco, c'est organisé par une société qui fait de la formation pour les banquiers qui s'appelle Agifpass et qui, à peu près une fois par mois, fait une petite chronique pour justement ces banquiers sur des thèmes d'actualité économique et bancaire.
Et vous êtes régulièrement consulté à ce titre et vous avez parlé inflation. Vous vous êtes dit, ça serait pas mal que mon travail serve aussi dans d'autres chroniques, notamment sur RCF, pour laquelle vous donnez beaucoup de temps bénévolement, Gérard-Marie Henry. Donc c'est bien normal de reprendre les mêmes thèmes. L'inflation, une définition, comment elle se calcule, Gérard-Marie Henry?
Alors le calcul, c'est l'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. C'est pas un prix qui monte, le prix de l'essence quand je vais faire le plein ou le prix du café. C'est tous les mois, l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, un organisme français, fait 160 000 mesures de prix, 160 000 produits ou services. Et donc on va regarder combien ils ont augmenté chacun, et puis après on va regarder combien chacun de ces produits ou services se retrouve dans le budget des ménages. On prend le budget des ménages en général, alors évidemment ça va être un peu différent suivant les personnes, mais en général on consomme à peu près 15% de son budget pour l'énergie, etc., etc. Et donc on va utiliser ces pourcentages pour les appliquer sur les augmentations réelles des prix. Et on aura donc une sorte de combinaison linéaire qui va nous donner à la fin la hausse du niveau général des prix de 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Donc un prix qui augmente de 20% mais qui ne représente presque rien dans le budget des ménages, mais ça fait pas beaucoup bouger le niveau de l'inflation. Par contre, un prix qui augmente de seulement 5% mais qui a une part très importante, il va faire monter l'inflation assez fortement. Donc le prix de l'énergie, par exemple, c'est un facteur d'inflation important. Les produits alimentaires, enfin, on a un certain nombre de trucs qui sont vraiment importants dans le budget des ménages et qui vont donc faire que l'inflation va augmenter plus ou moins vite suivant l'augmentation de ses prix.
Alors justement, si l'on met le panier des ménages, mais tout compris à la fois, j'allais dire, les courses, l'alimentaire, comme vous l'avez dit, Gérard-Marie Henry, mais aussi l'énergie, le coût de l'électricité, du gaz, aller faire son plein d'essence, payer les factures, etc., Gérard-Marie Henry, si on met tout bout à bout, au moment où on entame le dernier mois de l'année 2023, ce mois de décembre, l'inflation, elle est à combien pour les Français en ce moment ?
Elle est encore au-dessus de 4%, presque 5, quoi. Donc ce qui est beaucoup, puisque l'objectif des banques centrales, celle qui cherche à ce que notre monnaie garde sa valeur, l'objectif des banques centrales, donc de la Banque Centrale Européenne, c'est que l'inflation ne dépasse pas 2% seulement. Alors on était monté à 8, on est descendu, mais on est encore à un niveau qui est assez loin de l'objectif. Et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne continue à maintenir une politique sévère de taux. Si vous allez emprunter, vous verrez que votre banquier ne vous fait plus les taux qu'il pouvait vous faire il y a 2 ans.
Je vous le confirme.
Parce que la Banque Centrale Européenne prête aux banques un taux qui est beaucoup plus important, presque 4,5%, et donc la banque va répercuter ça sur le prêt qu'elle vous fait. Le but du jeu de la Banque Centrale Européenne, c'est essayer de ralentir l'inflation. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle serre trop les boulons parce que ça risquerait de vraiment faire que l'économie tombe en récession. Donc elle choisit une voie médiane et donc l'inflation, pour l'instant, n'est pas encore vraiment réduite au niveau voulu.
Il y a cette inflation qui est calculée, vous l'avez dit, notamment par l'INSEE, qui prend 160 000 produits, j'allais dire, et consommations différentes des ménages pour calculer cela. Et puis, il y a aussi le ressenti. Lorsque l'on est un ménage, lorsque l'on est un consommateur, on a l'impression que l'inflation, elle est continue et qu'elle ne s'arrête jamais et qu'elle est bien au-delà des 4%, Gérard-Marie Henry.
Absolument. Le ressenti est des Français. On vient d'avoir une étude, justement, encore de l'INSEE sur le moral des Français. Ben, les Français trouvent que les prix continuent à grimper très fort. Parce que, évidemment, ils n'ont comme mesure que ce qu'ils viennent d'acheter récemment. Ils ne voient pas qu'il y a d'autres produits. Par exemple, on ne change pas d'ordinateur tous les jours. Si on prenait cet indicateur-là, on s'apercevrait que les prix baissent. Les prix baissent même en ce moment. Mais ça, on n'en achète pas tous les jours. Donc on rentre. Alors que l'INSEE va calculer combien ça ferait si un ménage changeait son ordinateur. Bah, ça ferait baisser le taux général des prix. Donc le ressenti est assez différent de la mesure que l'INSEE peut faire, puisqu'elle prend tous les produits, alors que nous, dans notre achat quotidien, bah, nous avons un tout petit panel qui n'est pas forcément représentatif de nos dépenses totales.
Mais face à cette problématique, Gérard-Marie Henry, est-ce que ça serait pas mal si chacun y mettait du sien ? On l'a dit, par exemple, il y a l'INSEE qui fait des calculs, il y en a certains qui essayent de faire des efforts, etc. Et puis, à côté de ça, on a la position des industriels, notamment pour parler des paniers alimentaires qui concernent davantage les ménages, parce qu'on ne peut pas se passer de manger, les courses, tout le monde y va, etc. Les industriels, eux, ils continuent d'augmenter leurs prix, j'allais dire, encore et encore.
Oui, mais parce que, enfin bon, encore une fois, on va pas les excuser, mais ils ont des raisons assez objectives. Pour l'instant, ils continuent, par exemple, même si le prix du pétrole en ce moment baisse, bah, si vous avez un contrat, en général, vous travaillez sur les prix d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois. Et donc, tant que vous travaillez sur ces prix-là, vous dites, ben moi, j'ai pas ma facture d'énergie, ma facture de farine, etc., ben, elle a pas baissé, donc je peux pas baisser mes prix. Et au contraire, j'ai des nouvelles charges. Par exemple, j'ai été obligé d'augmenter mes salariés parce qu'ils ont protesté en disant, il y a la hausse des prix. Ben, je voulais pas qu'ils fassent grève, donc je les ai augmentés. Donc tout ça, ça impacte. Et donc, je vais quand même augmenter mes prix. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'on a des effets, ce qu'on appelle des effets de second tour, c'est-à-dire l'entreprise est obligée de concéder des augmentations de salaire pour pas qu'il y ait trop de pertes de pouvoir d'achat, et ces augmentations de salaire bah, nourrissent l'inflation, parce qu'une autre entreprise va avoir des produits qui vont être plus chers dans ses intrants, et elle va elle-même être amenée à répercuter. Donc vous voyez, tant que le scénario de ces effets de second tour ne s'arrête pas, on est sur une inflation qui est encore un petit peu excessive.
Lorsque vous êtes économiste, Gérard-Marie Henry, vous n'êtes pas visionnaire dans le sens où vous n'avez pas une boule de cristal pour prévoir l'avenir. En revanche, vous essayez d'établir des pronostics, mais parfois les parieurs, ça peut leur arriver de gagner, parfois de perdre. Je vais quand même vous demander votre vision sur la trajectoire de l'inflation à court, à moyen, à long terme. Comment va finir l'année là en 2023 ? Et puis, à partir de quel moment le consommateur, les ménages vont retrouver une inflation moins importante ?
Alors, moi, je crois assez à ce que raconte la Banque Centrale Européenne et la Banque de France, qui refait ses propres calculs. On a quand même une baisse de l'inflation, une baisse qui est moins rapide que prévu. C'est-à-dire, si on reprend ce que racontait la BCE, normalement, on devrait en ce moment déjà être pratiquement arrivé à l'objectif des 2%. On est quand même encore au-dessus, même si le cas français est un petit peu différent des autres pays européens. Ils sont moins inflationnistes que nous. Mais on devrait avoir dans l'année 2024 la poursuite de cette baisse. Et arriver en 2025 à atteindre cette fois-ci l'objectif d'une inflation tout à fait calme, de l'ordre de 2 ou peut-être un peu moins. Et évidemment, on se reverra en fin 2024, l'année prochaine, au mois de novembre, pour voir si on a bien cette trajectoire qui se poursuit et qu'il n'y a pas eu d'accident qui pourrait se produire, par exemple au niveau international, un blocage des détroits pétroliers à côté de l'Iran et de l'Irak, qui ferait monter le prix du pétrole terriblement à 200 $ le baril, et à ce moment-là, on se retrouverait avec un impact sur l'inflation qui serait important. Mais si on ne prend pas en compte ces événements géopolitiques, on est sur une trajectoire qui est descendante, moins vite que prévu, mais c'est assez optimiste quand même.
Rendez-vous est pris pour novembre 2024, Gérard-Marie Henry. On espère vous revoir avant physiquement dans nos studios tout de même. À très bientôt, Gérard.
À très bientôt.
Voilà, c'était Voici l'enfant de Noël. On est toujours dans cette période entre Noël et 1er janvier où on se prépare bien sûr à franchir le cap de l'année nouvelle de 2024. Tous les jours, vous le savez, à midi, on retrouve votre mère nous parle et on retrouve également le soir aux alentours de 18h20. C'est le cas ce soir, en ce jeudi 28 décembre, avec une commune de la région de Reims, il s'agit d'Oménancourt, avec son maire, Christophe Mahuet, qui est avec nous. Christophe Mahuet, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors Monsieur le maire, c'est l'occasion pour nous de mieux connaître Oménancourt, votre commune et vous-même. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune, le nombre d'habitants et puis présenter un petit peu sa sociologie? Est-ce qu'on est agriculteur, retraité, jeune à Oménancourt?
Oménancourt, c'est une commune de 1100 habitants sur à peu près 13 km carrés, c'est-à-dire 85 habitants au kilomètre carré pour 4000 dans la région de Reims, pour se faire un petit peu la différence, la comparaison, et on en trouve à peu près tous les types de la société. C'est tout à fait ouvert à tous, c'est une commune où il fait bon de partager et où chacun, dans les domaines d'activité différentes, peut y vivre. Il n'y a pas d'entre-soi au Oménancourt.
Alors une petite question, monsieur le maire, qui vient à l'esprit, c'est que c'est pas très très loin de Reims, au fond, au Oménancourt. Combien de kilomètres?
C'est à 10 km de Reims, c'est une commune que j'aime à dire d'ouverture, puisqu'on est à la fois à la limite d'un département et d'une région, puisqu'on est tout juste à la limite des Ardennes et de l'Aisne. Et donc l'Aisne, c'est les Hauts-de-France, donc une région voisine et un autre département.
Alors justement, on l'a vu au moment du Covid, monsieur le maire, c'est que il y a des personnes qui souhaitent quitter un peu la ville pour aller dans des villages qui sont agréables à vivre, qui ont une qualité de vie, très belle qualité de vie, où ils peuvent sortir, ils ont un petit jardin, etc. Et est-ce que vous le sentez vous-même, peut-être pas encore, mais est-ce qu'à Oménancourt, il y a des gens qui viennent s'installer?
Oui. Si, c'est, je dirais même pas, c'est même autre chose que pas encore, puisque on l'a senti assez vite après le Covid, puisque le Covid, ça a débuté il y a déjà 3 ans, et depuis la fin de Covid, d'environ un an et demi, l'immobilier à Oménancourt était très prisé. Une maison à vendre n'est restée rarement plus d'une journée. Par contre, justement, c'est pour ça que je mettais un petit peu les guillemets, c'est que depuis quelques mois, je pense que la situation économique, la montée des taux de crédit fait que les choses sont dans
l'immobilier. Ça a rafraîchi un petit peu les initiatives. Alors, vous-même, monsieur le maire, vous êtes maire d'Oménancourt depuis plusieurs années?
Eh bien, 3 ans, nous avons été élus le 15 mars 2020 avec l'équipe de Oménancourt Autrement et puis installés quelques mois après, justement, que Covid oblige une nouvelle fois, mais j'étais déjà adjoint le mandat précédent.
Alors ça veut dire que cette passion pour l'investissement dans la mission publique, elle vous tient à cœur. Je veux dire, c'est presque dans votre ADN, Christophe Mahuet.
Ah, dans l'ADN, oui, je dirais même, ça doit même être dans les gènes, puisqu'il faut que ce soit familial. C'est un engagement qui se fait déjà avec mon épouse dans la vie associative. J'ai une fille également qui est pompier volontaire. Je pense qu'il faut le vivre ensemble en famille, puisque sinon ce serait irréalisable. Et puis après, bah oui, c'est le plaisir de servir et ça fait vivre des moments merveilleux.
Alors il faut dire que dans certaines communes, pas la vôtre, vous avez des maires qui hésitent à se représenter parce qu'ils disent quand même que la charge est lourde et les responsabilités aussi sont parfois importantes. Et puis parfois ils se font, comme disait un peu Gérard Larcher quand il parlait de « apporter d'engueulade », c'est vrai que bon, quand on veut se défouler un petit peu, on a quelqu'un en face, c'est le maire quand même.
Oui, il disait exactement à portée de claque, Gérard Larcher. Et Gérard Larcher, heureusement qu'on l'a pour avoir un élu au niveau national sensible aux préoccupations des maires. Je vous remercie de faire la partie sur ce grand personnage de l'État. En effet, on n'est pas toujours très bien suivi par les élus nationaux qui nous donnent finalement énormément de contraintes. Et derrière ça, peu de moyens pour les passer en application. Mais on vit avec.
Mais est-ce qu'on peut dire que le maire, il est quand même un peu, quand même toujours, un peu le patron chez lui, même si il y a un certain nombre de décisions qui peuvent être prises au niveau du Grand Reims ou dans d'autres communes, des communautés de communes?
Ah bah, Les communautés de communes, il faut revenir, je pense, un peu justement ici aussi à la jeunesse de l'histoire. Les groupements ont été faits pour mutualiser et pour servir les communes. Qui devient parfois un petit peu gênant, c'est qu'il y ait un retournement de situation et que ce soit l'inverse. L'intercommunalité doit être au service de la commune. Et ça, c'est un combat permanent, puisque aujourd'hui, en effet, les différents projets qu'on peut mener dans nos communes, les plus pertinents pour leur territoire, c'est obligatoirement les conseils municipaux qui les connaissent et qui doivent s'en saisir et les défendre. Jamais l'inverse, quoi.
Est-ce que vous avez actuellement, alors peut-être que vous avez déjà réalisé un certain nombre de choses, Christophe Mabé, mais est-ce que vous avez des projets en cours ou des projets à court, moyen ou long terme avec Oménancourt ?
On est en train de terminer un projet important qui est une première phase de la traversée d'Oménancourt qui n'avait jamais été refaite depuis l'après-guerre. C'est une phase de voirie entière, c'est-à-dire de la route, de l'effacement de réseau, les éclairages, l'eau. Une phase qu'on a pu réaliser donc grâce au Grand Reims et puis surtout grâce à l'engagement d'un homme qui est notre président de département, Christian Bruyen, qui a été particulièrement extraordinaire avec nous sur le sujet. Il s'est défendu, il a suivi le dossier. Et donc je vous disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 3 ans seulement que je suis maire, mais à l'époque il est venu sur place et il s'est engagé, il a tenu parole. Donc je tiens à en profiter de l'instant pour remercier cet élu qui a su tenir parole. Ensuite, donc sur les projet futur, eh ben, on a bien sûr les phases suivantes, la continuité de ce dossier. On a également fait l'acquisition d'un terrain derrière l'école pour pouvoir y installer une médiathèque. On a un projet de crèche qui avance pas mal. On vient de façon plus anecdotique, mais pas seulement, de contractualiser avec les boulangers de Bourgogne, les petits jeunes à côté de 25 ans qui se lancent dans une boulangerie depuis à peine un an, donc c'est très courageux. Et on a installé une machine à pain devant la mairie pour pouvoir leur donner un petit coup de pouce et puis également apporter un service supplémentaire aux habitants. On travaille également sur la vidéosurveillance, un dossier d'ailleurs qui en prenant mon mandat m'aurait paru complètement fou. Et malheureusement, la situation actuelle est telle que des communes comme Oménancourt doivent s'équiper de vidéosurveillance. Voilà un peu en gros les différents dossiers sur lesquels on travaille actuellement.
Christophe Mahuet, c'est vrai qu'on dit que c'est très prenant, et ça l'est, les maires le disent, mais arrive-t-on facilement à concilier le fait d'être maire et la vie professionnelle, ou le fait d'être maire et la vie familiale ?
Personnellement, j'y arrive, c'est plutôt une belle aventure, mais c'est une aventure qui est irréalisable en effet, parce qu'on n'est jamais seul, quoi. On fait finalement rien seul, et c'est parce que autant dans la vie professionnelle que dans la vie familiale et dans la vie d'élu, ce sont toujours des équipes où on ne fait rien dans l'engagement sans avoir derrière soi toute une équipe. Et j'ai une société familiale avec mes frères, on fait des équipements pour les travaux publics, et on est habitué à cet esprit où chacun travaille dans le même sens, et la répercussion de cet état d'esprit où il est finalement nécessaire d'être exigeant pour soi-même, mais particulièrement toujours tolérant avec les autres, ben je le répercute dans le conseil municipal. Et on a plutôt une belle façon d'avancer, mais j'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe municipale et les agents qui font un travail remarquable.
Christophe Mabé, il nous reste 20 secondes, il suffit d'un mot. Êtes-vous un maire heureux, Christophe Mabé?
Très heureux, c'est la plus belle des missions. J'ai la chance, dans le cadre de ma fonction, de rencontrer de nombreux élus, et tous me disent qu'il n'est plus beau mandat que celui de maire.
Eh bien,
pas toujours simple, mais très bien.
Quelle belle conclusion dans cette émission. Votre maire nous parle, Christophe Mahuet, maire d'Oménancourt, un maire heureux avec nous sur RCF. Très bonne journée, à bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Voilà, c'était Allons ensemble à Bethléem. On retrouve ce soir également, comme on l'annonçait tout à l'heure dans le sommaire, Claude Ruiz qui nous parle de Noël, mais non pas avec les monuments, avec les musées, mais avec les villes en particulier. Claude Ruiz.
En cette période de fête, on retrouve régulièrement Claude Ruiz pour se balader et regarder ce qu'il se passe à travers le monde. Claude Ruiz, bonjour.
Bonjour.
Il y a quelques temps, on avait parlé des fêtes et de la glorification de certains lieux. Aujourd'hui, après avoir abordé l'existence des lieux, résidence des dieux ou lieux fortement valorisés, en particulier lors des fêtes ou cérémonies religieuses, les lieux, ce sont aussi des lieux habités, en particulier les villes. Que peut-on prendre comme exemple, Claude Ruiz ?
Alors, les villes, les anciennes cités sont évidemment des lieux de sédimentation un petit peu historique. Ce sont des centres de l'expression religieuse. Bien entendu, nous l'avons vu dans une précédente émission, les montagnes, les éléments remarquables sur le plan topographique peuvent être des lieux divins. Mais bien entendu, c'est là où il y a la société, où on se rencontre, où on parle, où on réfléchit, qu'il y a cette expression religieuse. Et donc les villes sont des centres de l'expression religieuse. Alors, bien entendu, pour les chrétiens, on peut citer Jérusalem et le mont du Temple. Là, c'est à la fois un élément urbain et puis un élément topographique remarquable. Jérusalem, on a l'impression que le monde entier s'est donné rendez-vous dans cette vieille cité. Je dirais à la fois, c'était vrai pour nous en termes historiques, dans le monde romain, c'était un lieu de rencontre, d'échange entre les flux venant d'Occident, on va dire, de la Méditerranée et d'autre part d'Afrique ou d'Asie. Donc par conséquent, ça a toujours été un lieu assez mélangé.
Vous prenez l'exemple de Jérusalem, Claude Ruiz. C'est vrai qu'on met souvent en avant que Jérusalem est une ancienne cité au cœur de trois religions.
Oui, cette cité qui, donc sur le temps, s'est aussi structurée par rapport aux groupes dominants, ceux qui vont mettre en avant en particulier le judaïsme. Mais cette vieille cité, c'est une sorte de labyrinthe cerné de murs qui contient une foule mélangée, c'est-à-dire qu'on va retrouver à la fois des kippas, des robes monacales, des djellabas, mais je dirais aujourd'hui des jeans, des casquettes de baseball ou autre, même si de temps en temps, il y a des contraintes sur certains un lieu où on ne peut pas arriver n'importe comment. Du fait justement du poids religieux pour la plupart des groupes qui vivent, qui viennent, qui visitent ce lieu. Donc l'air est chargé, je dirais, d'épices, d'encens, dont vous voyez c'est encore mélangé. Donc l'expression religieuse carillon des cloches, appel du muezzin, célébration d'une bar mitzvah donc pour le monde juif. Donc cette ville, c'est une concentration de foi et de gens qui se rencontrent sur la base de la foi, et c'est quelque chose qui est assez remarquable.
Pourquoi dit-on que c'est une des plus vieilles cités du monde ?
Alors, les premières occupations ont eu lieu vraisemblablement il y a plus de 5000 ans, et ces cités, de petite dimension bien entendu au départ, qui sont simplement des groupements de population, c'est un endroit qui a été de multiples fois assiégé, envahi, occupé. Donc, vous voyez, il y a eu déjà aussi un mélange de populations et de groupes qui ont structuré un petit peu l'espace, plus ou moins de façon remarquable. Mais la ville, elle a toujours été, je dirais, survivante. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait la puissance de Jérusalem, c'est que, quels que soient les conflits, les combats qu'il y a eu entre les groupes, elle a toujours connu une renaissance. On est bien un petit peu dans ce cadre-là. Et elle est toujours survivante, c'est la destination des pèlerinages religieux, en particulier des trois monothéismes qui ont marqué le plus à la fois la région, l'espace, et même aujourd'hui, vous le savez, à l'échelle mondiale, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, et l'islam, qui ont joué un rôle chacun, mais en avant, en réalité, un espace pour les juifs. Sur place, ça sera, on va dire, je cite quelques exemples, on pourrait discuter vraisemblablement sur les deux ou trois points, le mont du Temple, le lieu où Dieu, en fin de compte, dans le Talmud, ramasse la terre pour créer Adam. Donc, vous voyez, ça, c'est un lieu plus que sacré. C'est le sacrifice d'Isaac, c'est le premier temple, au Xe siècle avant Jésus-Christ, par Salomon. Donc, vous voyez, il y a des lieux remarquables qui vont jouer. Mais, même en petit, c'est toujours un rôle essentiel. Pour les musulmans, c'est un site, le troisième site d'où part Mahomet pour son voyage. Donc la mosquée sur le dôme du rocher, ben, là aussi, c'est un lieu sacré. Quant aux chrétiens, le mont du Temple, lieu des prêches et de guérison donc, de Jésus, lieu de la révolte aussi, lieu du dernier repas. Enfin, je ne vais pas vous reprendre les éléments sur un espace de quelques hectomètres en réalité. Donc on voit là, je dirais, la puissance en fin de compte de l'histoire qui se retrouve dans ces domaines.
Aujourd'hui, ce lieu de spiritualité peut-il résister au contrôle de ces sécurité, Claude.
Oui, vous avez raison. C'est puisqu'on parle qu'il y a beaucoup de monde, que c'est très important, ça veut dire que c'est un espace où beaucoup de populations qui peuvent avoir de temps en temps, pas toujours, hein, ça c'est l'expression aussi rivalité mondiale, on est obligé en fin de compte de surveiller pour protéger ces lieux, puisque je dirais de nombreuses sociétés en font un lieu essentiel sur le plan religieux. Donc là, il y a adaptation et partage. Donc, vous le savez, on se partage en fin de compte souvent les lieux. Pour les Juifs, le mur des lamentations occidental, donc il ne faut pas le profaner, donc c'est quelque chose qu'il faut protéger. Pour les musulmans, c'est le dôme du rocher. Pour les chrétiens, c'est le Saint-Sépulcre. Donc, vous le voyez, comment organiser, c'est un vrai casse-tête d'organiser et de permettre en réalité à des populations qui, presque toutes, mettent en avant la pacification, mais qui, sur le terrain, quand on se rend compte, c'est comme des voisins, vous savez, de part et d'autre, d'une frontière au fond du jardin, c'est relativement difficile et c'est un vrai casse-tête, en particulier pour l'État israélien.
Une problématique d'ailleurs, Claude Ruiz, que l'on retrouve souvent dans les grandes villes religieuses.
Oui, c'est pareil, on retrouve ce phénomène de concentration. Alors là, on a parlé de Jérusalem parce que c'est une des plus importantes. Après, il y a des religions qui sont plus en marge, à la fois géographiquement. On pourrait citer par exemple Kyoto, au Japon. Vous savez, c'est un ensemble d'îles avec 4 ou 5 îles principales. L'île centrale qui s'appelle Honshu. Et Kyoto était une capitale impériale, donc symbole du métissage culturel. Hein, c'est-à-dire des Japonais du Nord, proche des milieux froids, des Japonais en fin de compte du monde équatorial déjà, hein, tropical équatorial. Donc on voit que là aussi à Kyoto, les espaces, suivant que la religion, les sectes on va dire, évoluent pas au sens négatif, hein, au sens de réflexion religieuse, sont séparés par des torii, des portails. Alors il y a les portails shintoïstes traditionnels qui jouent un grand rôle dans la géographie donc d'une ville religieuse comme Kyoto. Il y a ces portails, en fin de compte, sont l'entrée vers des jardins ou des temples. Chaque torii est un passage et bien entendu, c'est souvent des groupes qui financent le torii qui permet le passage dans un lieu particulier. Donc vous le voyez, les résultats de conflits peuvent se faire aussi, pas seulement à l'intérieur des religions je dirais japonaises, mais aussi du bouddhisme qui est arrivé du nord. Donc là, les tensions peuvent se retrouver dans ces espaces.
Avant de terminer, Claude Ruiz, juste d'un mot, qu'est-ce qui a provoqué le développement de Kyoto? Qu'est-ce qui fait que Kyoto continue de se développer aussi aujourd'hui d'ailleurs?
Les investissements... À l'échelle historique, les investissements, ça a été du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir religieux. C'était le mélange des fonctions politiques et religieuses qui a amené un rôle culturel. C'est là où on avait les meilleurs artisans. Et quand vous cherchez, en fin de compte, sur l'artisanat japonais, c'est souvent le lieu, même encore actuellement. Et donc, ça a été le lieu d'une très, très forte spiritualité.
Merci, Claude Ruiz. À très bientôt.
Au revoir.
Les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans.
Après cette pause musicale, vous êtes à l'écoute toujours de ce magazine du 18-19, 18h10-19h, sur RCF Reims-Ardennes, un magazine à la fois local et diocésain. Dans quelques jours, ce sera à partir du 15 janvier, il y aura le début d'un cycle de conférences avec Alliance Vita. Eh bien, pour nous en parler, en direct avec nous, Marie Bayard. Marie Bayard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alliance Vita va organiser à partir du 15 janvier un cycle de formation aux enjeux bioéthiques. On sait que l'actualité nous le propose régulièrement. Il y a des vrais débats en ce moment sur ces questions. Alors pouvez-vous nous rappeler ce qu'est Alliance Vita, Marie Bayard ?
Alors Alliance Vita, c'est une association qui a été créée en 1993 au moment des premières lois bioéthiques. Le but est trois axes. Un axe qui est d'écouter, un axe qui est de former et un axe qui est d'informer. Alors écoutez, nous avons trois services d'écoute, SOS bébé, SOS fin de vie et un service fait par les soignants, pour les soignants. Récemment d'ailleurs, depuis le Covid-19, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de malaise dans le monde de la santé. Après informer, nous avons des contacts avec les députés, avec les sénateurs, on est auditionné au Sénat, à l'Assemblée, au Conseil de l'Europe et même à l'ONU. On est accrédité aussi. Et formé, voilà, on y arrive. C'est pour notre université de la vie que nous renouvelons depuis maintenant 17 ans, avec tous les ans un thème différent pour aborder ces problèmes bioéthiques.
Alors justement, va démarrer en janvier, à partir du 15 janvier, un cycle de formation aux enjeux bioéthiques créé donc et animé par vous, Alliance Vita. Alors, de quoi s'agit-il ? Comment ça va se passer ? Et bien sûr, à Reims, il y a une adresse, il y a un lieu et il y a des horaires.
Déjà, ça se passera, et un grand merci à eux, chez Charbonneau-Brabant, 52 rue de la Justice. Ça va se passer sous forme de quatre soirées. Quatre soirées à 20h30, le 15 janvier,
le 22, le 29
et le 5 février. Voilà. Et chaque soirée aura un thème différent sur le thème général qui est « Parier sur la vie, est-ce raisonnable ?»
Une petite question pratique, Marie Bayard, c'est si on ne peut pas aller aux 5 soirées, si on participe à 1 ou 2, c'est quand même possible.
C'est possible, mais l'inscription se fait pour les 5.
Voilà,
parce qu'il y a quand même une continuité dans la formation. Par exemple, le 15 janvier.
Pour démarrer.
Alors le 15 janvier, c'est la vie à son commencement. Tout ce qui va toucher aux problèmes bioéthiques du début de la vie, avec les idéologies actuelles, comme pourquoi les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants, comment est-ce qu'on perçoit maintenant la natalité compte tenu des nouvelles techniques qu'il peut y avoir pour la procréation. Ça, c'est, il y a déjà un grand changement de mentalité chez les parents en quête d'enfants.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions nouvelles qui se posent et Alliance Vita se positionne sur ces questions. Et donc, le début de la vie et puis toutes les soirées, on ne va pas les énumérer. Mais comment fait-on, petit détail pratique aussi, comment fait-on pour s'inscrire à ce cycle de formation?
Alors, pour vous inscrire, vous allez sur le site universitédelavie.fr, c'est très simple.
universitédelavie.fr.
Et vous suivez le cursus du site et vous choisissez et votre région, votre ville et vous vous inscrivez.
Parce que ces universités, Marie Paillard, sont nationales. Mais dans ce cadre national, Reims a sa part.
Et c'est national, c'est dans plus de, et même international, c'est plus de 100 villes en France et je ne sais plus combien à l'étranger. Alliance Vita a un peu essaimé un peu partout. Il y a des gens qui s'expatrient et qui continuent leur engagement et organisent des universités de la vie. Donc, ça va être, en général, tout le monde en même temps, le même soir.
Tout le monde en même temps, le même soir, avec à chaque fois une empreinte et un ancrage local. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de général, de national, et puis il y a un invité local, il y a...
On essaye de trouver à chaque soirée un témoin local pour faire connaître soit une association locale, soit un médecin, soit... Enfin, voilà, on essaye. Alors, je ne vais pas vous donner, je vais vous laisser la surprise
de découvrir.
De découvrir.
Ça fait un peu partie de l'emballage cadeau. Hein.
Voilà.
On doit découvrir ce qui va se passer. Alors, c'est vrai que depuis 19 ans, vous le dites dans un communiqué, et que l'Université de la Vie dresse le panorama des grandes questions bioéthiques. C'est-à-dire que ça fait partie, j'allais dire, de votre ADN à vous, de présenter toutes ces questions chaque année.
Oui, oui. On essaye d'être dans la protection de la vie. Vraiment protection. Je préfère ce mot-là au mot « défense » qui est plus agressif. Protection parce que on sent qu'on en a besoin au niveau, dès le début de la vie. On accompagne les femmes qui peuvent avoir des questions post-avortement ou simplement des problèmes d'infertilité. Et puis dans tout le cursus de la vie, on accompagne aussi le handicap et à la fin de la vie, on est
les questions
très
bioéthiques qui sont vraiment d'actualité.
Voilà.
Donc on est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui. Et est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a des dérives qui se font jour et que sans paraître, j'allais dire, traditionnel ou s'arc-bouté sur le passé, la vie, ça, j'allais dire, ça, il n'y a pas de négociation possible, il y a des choses qu'on ne peut pas changer tout de même.
Il y a quand même un principe de base, c'est tu ne tueras point, qui fait partie de notre ADN et qui fait que nous faisons société. Ce principe-là, si on
il
y
est
touche...
Il est vrai au début de la vie, il est vrai aussi terme de l'existence.
Voilà, et ce principe-là, si on y touche, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer dans les rapports humains.
On voit d'ailleurs les difficultés qu'ont les médecins, l'ordre médical n'est pas en situation, j'allais dire, facile aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui trouvent que c'est difficile de suivre des recommandations.
Énormément.
Tout le monde n'est pas d'accord.
Il y a beaucoup de médecins qui freinent des cas de fer, oui, qui sont très inquiets, parce qu'ils ont très peur de tuer cette relation patient-médecin, qu'il y ait des doutes qui s'installent et des peurs.
Parier sur la vie, est-ce raisonnable? C'est la question que vous posez lundi 15 janvier. Alors, on ne va pas énumérer peut-être tous les thèmes, mais vous l'avez dit, 22, 29, 5 février, c'est tous les lundis, c'est facile. C'est à 20h30, c'est rue de la Justice, au 52. Et là, on peut arriver. Est-ce qu'on peut arriver à l'improviste? Peut-être pas, quand même. Ouais,
c'est quand même beaucoup mieux de vous inscrire pour deux raisons. D'abord, pour nous, c'est un peu sécurisant de savoir combien on va être pour pouvoir préparer la salle. Et deuxièmement, vous avez, avec votre inscription, vous allez recevoir un livret du participant qui est truffé d'informations. Et si vous voulez le recevoir à temps, c'est bien de l'avoir avant,
bientôt.
Il faut s'inscrire, oui. Voilà.
Donc on invite tout le monde à aller sur le site universitédelavie.fr.
Oui.
On suit les indications, on s'inscrit en faisant attention que c'est bien à Reims.
Oui, il y en a une aussi à Chalon, mais bon.
Bon, voilà. pour Chalon, bon, c'est vrai que RCF Cœur de Champagne en parlera. Et pour Reims, bien entendu. Alors, faites-nous une promesse, on le demande à chaque fois. Vous aurez l'occasion de revenir pour le 22, le 29 ou le 5 février, avant que le cycle se termine, de revenir nous faire un bilan. Comment ça s'est passé, les premières rencontres, et puis ce qui va se passer dans les jours qui viennent.
Mais avec plaisir.
Vous avez noté les différentes dates pour ces cycles de conférences. C'est à partir du 15 janvier et bien sûr de 8 jours en 8 jours, 15, 22, 29. Vous avez entendu les dates. Il ne faut pas tarder à s'inscrire pour prendre quelques précautions. On retrouvera d'ailleurs Marie Paillère dans les premiers jours du mois de janvier. Tout de suite en musique, Jean-Sébastien Bach, un oratorio de Noël. Ceux qui aiment la musique en auront eu pour, j'allais dire, leur argent, puisque l'oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach est un morceau bien connu, sans doute des auditeurs mélomanes de RCF Reims-Ardennes. En attendant, il est bientôt l'heure de nous quitter, puisqu'on approche de 19h. L'occasion de vous rappeler que demain matin, nous retrouverons aux alentours de 7h Monseigneur Étienne Véteux, qui sera avec nous pour une émission peut-être un petit peu plus longue que d'habitude. Et puis, nous retrouverons demain soir, dans le cadre du 18-19, les vœux de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, vœux pour, bien sûr, 2024. En attendant la bonne année, en attendant que 2023 se termine, je vous souhaite une bonne soirée. À demain. Au revoir.